Les propos qui vont suivre peuvent être difficiles et font état de situations de souffrance. Si une personne de votre entourage ou vous-même pensez au suicide, appelez le 3114, numéro national de prévention et d'écoute.
J'essaie de comprendre en fait ce qui amène le jeune Drake qui sont obligés de faire ce Pensez les suicides.
Bienvenue dans la série PLS, Pensez les suicides. Issue du séminaire de recherche organisé depuis 2024 sur l'approche critique de la mort volontaire, cette série vise à réfléchir aux pensées contemporaines du suicide. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du suicide dans la police. Le suicide parmi les policiers est un phénomène assez médiatisé et les syndicats et les associations dénoncent le mal-être chez les agents de la police. Par ailleurs, le quatrième rapport de l'Observatoire national du suicide montre qu'entre 1997 et 2018 sont décomptés en moyenne 44,5 suicides par an, 39,3 pour les hommes et 5,2 pour les femmes, avec une année 2019 marquée par une hausse du nombre de passages à l'acte, dont 54 suicides dénombrés au 20 octobre 2019 dans la police nationale. Le rapport souligne aussi que malgré la complexité des causes du suicide, certaines caractéristiques du métier de policier favorisent une souffrance au travail et un risque suicidaire accru. Si les études sur la sursuicidalité des policiers fait débat, comme l'a montré Nicolas Bourgoin par ses travaux vers la fin des années 1990, il n'en reste pas moins que la problématique suicidaire se pose en termes de souffrance au travail. Si les moyens d'action ont été mis en place pour prévenir le risque suicidaire en police, ceux-ci restent récents et s'inscrivent dans un contexte particulier où la parole des policiers reste difficile à obtenir. Certaines analyses inspirées de la sociologie invitent à réfléchir sur les pratiques et les conditions du métier des policiers, sur les nouvelles tâches à effectuer, associées à la réforme de la police et le dysfonctionnement organisationnel ou même à l'échec de mesures de prévention. Les morts volontaires au sein de la police ne constituent pas une particularité française. Au contraire, au niveau international, les recherches montrent que les policiers meurent plus du suicide que d'autres causes de mort liées à la dangerosité de leur travail. Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Marguerite Trabu, doctorante en sciences politiques au sein du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Elle est l'autrice d'une thèse intitulée « Les psychologues de soutien des agents de police, attentes et tensions autour d'un dispositif d'intervention psychologique au sein de l'institution policière ».
Alors Marguerite Trabu, bonjour. Votre thèse s'attache en partie à retracer l'histoire de la mise en place de dispositifs de soutien psychologique dans la police. Comment fait-on cette histoire et avec quels outils ?
Alors merci pour votre invitation. Je dirais que l'intérêt pour l'histoire des dispositifs de soutien psychologique dans la police m'est venu d'abord de l'interrogation de comment un corps de métier apparemment diamétralement opposé à celui des psychologues, donc celui des policiers, avait pu œuvrer pour l'intégration d'un corps de professionnels du psychisme en interne à leur organisation. En effet, les mondes policiers sont plutôt caractérisés par la valorisation de l'action et de l'écrit, alors que les psychologues utilisent plutôt la parole. Les policiers valorisent notamment la réaction et l'immédiateté d'une réponse, quand l'approche psychologique favorise plutôt la réflexion à distance des événements. Et enfin, alors que dans les mondes policiers, les émotions ont intérêt à être cachées ou au moins sans incidence sur la conduite des activités, dans les approches psychologiques, le travail porte sur les émotions elles-mêmes. Donc j'avais cette grande interrogation sur comment deux mondes très différents arrivent à rentrer en contact et à se coordonner. Et aussi, j'ai cet intérêt pour l'histoire des dispositifs, mais aussi venu de ma rencontre avec des psychologues de cette institution qui étaient en poste déjà dans les années 90 et qui m'ont présenté une version alternative de l'histoire officielle du soutien psychologique en police en me soulignant que la bande temporelle souvent associée au début du soutien psychologique en police cachait en fait le fait qu'il y avait eu des pratiques de soutien antérieures à la création d'un service institutionnel dédié. Donc je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait des versions un peu différente de l'histoire de service et du soutien psychologique institutionnel qui m'a poussée à investiguer cette question. Et donc, pour retracer cette histoire, j'ai d'abord recueilli les archives papier qui sont conservées au sein du service de soutien psychologique opérationnel de la police. J'ai aussi récupéré ce qu'il y avait aux archives nationales sur les suicides policiers et sur la création de ce service de soutien psychologique et sur les premières années de ce service. Donc ça donne globalement des documents administratifs, c'est des bilans, des circulaires, des notes de service qui sont adressées de psychologues à des acteurs administratifs. Donc ça témoigne globalement des relations des psychologues de la police de l'époque avec des acteurs administratifs. Je me suis aussi appuyée sur des entretiens avec des psychologues qui étaient présents dans la police dans ces années 90, avec l'enjeu de bien situer les propos de ces psychologues que j'ai recueillis en entretien, parce qu'ils peuvent être parfois opposés entre eux. Et c'est aussi que c'est des entretiens qui ont été faits à 30 ans après les faits, donc avec une distance aux événements à prendre en compte aussi. Du coup, pour pallier à cet enjeu-là, je me suis aussi appuyée sur des livres témoignages de l'époque, donc des psychologues qui ont écrit sur leur expérience de psychologue de la police et que ça a été publié à grande échelle.
Et alors, comment cette question de suicide émerge dans votre terrain, dans vos questions? Comment elle arrive alors
Justement, le suicide, c'est une des explications de la création de ce service. Et c'est notamment c'est ce qui a permis la cristallisation ou l'institutionnalisation des pratiques de soutien déjà existantes. Donc, alors qu'avant 1996, la problématique des suicides policiers était peu médiatisée, elle l'a été à partir de 1996 et ça a acté une volonté de l'administration de se monter proactive sur la question, alors qu'avant c'était une question qui était observée, étudiée, mais pas agie par l'administration policière. Et le fait que ça devienne un sujet de débat public, ça a amené l'administration à d'une part se positionner sur le fait que le suicide n'était de son point de vue pas lié à la profession policière, et d'autre part de chercher à se montrer très proactive sur ce sujet, ce qui est d'une certaine façon paradoxal. Et donc la mise en avant d'un corps de professionnels dédiés à la prise en charge psychologique, ça a fait partie d'une des solutions proposées par l'administration. C'est ce que montre l'IPSCI de manière plus générale sur la création de corps professionnels d'État, que souvent, il constitue une forme de réponse que les institutions peuvent montrer. Enfin, c'est très visible comme réponse à une problématique, la création d'un corps spécialisé.
Tout à fait classique, en fait, quand on y pense, la pression que le monde extérieur des institutions, qu'on peut les qualifier régaliennes, alors cette pression qui vient par la médiatisation, la circulation, la visibilisation, et que les institutions sont obligées de prendre action, ce qui fait une forme de reconnaissance d'un phénomène existant déjà, et une forme de reconnaissance peut-être latente ou informelle du fait que ces suicides-là, ces tentatives peut-être aussi, sont inscrites dans une logique de mal-être professionnel.
Le fait que le suicide policier ait été médiatisé au milieu des années 90, ça a ouvert l'enjeu de raconter et de mettre en récit les suicides policiers, donc d'identifier des causes et des coupables. Et donc, le premier élément qui a été publicisé, c'était une enquête sociologique qui était plutôt de l'ordre d'une étude statistique sur le phénomène. La suite qui a été donnée à cette médiatisation par les syndicats, ça a été notamment, pour certains syndicats policiers, de mettre en accusation l'administration policière sur ces suicides policiers. Et donc, ça a appelé une réponse publique de la part du ministère de l'Intérieur et un positionnement des institutions là-dessus, alors que c'était pas que le problème n'était pas connu avant, il était connu, il y avait des études statistiques administratives faites dessus. Mais la différence, c'est qu'il a fallu, pour l'administration, se montrer proactif. Et se montrer proactif dans les solutions de prévention et dans la construction d'un discours dédouanant l'administration policière. Donc, c'est-à-dire, ça a pu être considéré qu'il n'y avait pas de sursuicidité policière, mais aussi de s'intéresser en fait à ce qu'on pouvait associer comme facteur de suicide et d'identifier la part des causes personnelles et professionnelles. Et dans les études qui ont été produites par la suite, les enquêtes environnementales, ça s'appelle, un des indicateurs souvent observés, c'était la part des causalités personnelles et professionnelles, avec souvent comme résultat, dans les études administratives en tout cas, que la part des causalités personnelles était plus importante. Donc toujours cet enjeu de produire un discours dédouanant. Alors aujourd'hui, les discours sont différents sur cette question. Il y a beaucoup d'acteurs qui se positionnent plutôt sur ces questions en considérant qu'il y a une multiplicité des causes de suicide et que c'est une causalité complexe à identifier. Les discours changent un peu là-dessus.
Et alors, après cette reconnaissance de la part de la police, on a, vous dites, un nouveau corps de professionnels qui arrivent, qui sont psychologues. Est-ce que vous savez pourquoi ce choix a été fait ? Est-ce que pourquoi c'était plutôt de psychologue et pas une autre spécialité ? Est-ce qu'il était de psychologue ou de psychiatre ? Est-ce qu'on trouve là-dedans d'autres spécialités de la santé mentale, par exemple ?
Effectivement, c'était la réponse principale qui a été adoptée en 1996, c'était d'augmenter le nombre de psychologues et d'assistantes sociales pour développer les fonctions d'écoute. Donc ça s'explique de plusieurs façons. D'abord, c'est parce que les psychologues, c'était un corps de professionnels de santé déjà présent au sein de l'institution, donc qui avait été intégré dans l'institution policière en 1982, au départ avec des missions plutôt de recrutement et de formation, donc plutôt des missions de sélection des agents, avec l'idée que il fallait prévenir une maladaptation des agents à leur poste. Donc l'hypothèse plutôt que les problématiques qui pouvaient émerger dans la vie professionnelle des agents de police provenaient de leur constitution personnelle, enfin, ou préalable à l'entrée en police en tout cas. Donc les psychologues étaient déjà présents dans l'institution policière. Ce qui est intéressant, c'est d'identifier que ces psychologues qui étaient sur des missions de recrutement et de formation, avaient pour beaucoup des formations de cliniciens, cliniciennes. Et donc, des compétences dans le travail de l'écoute et un intérêt professionnel à se positionner dans un rapport, si ce n'est thérapeutique, au moins d'écoute vis-à-vis des agents de police. Donc, c'est des pratiques qui avaient été développées dès la fin des années 80, au début des années 90, dans les écoles de police où se situaient les psychologues. Donc, en fait, c'est un groupe professionnel qui avait une réponse toute faite à proposer, enfin une réponse en tout cas déjà expérimentée, à proposer à l'administration policière.
Et alors, quelles étaient exactement les pratiques mises en place pour cette démarche proactive que vous venez de décrire ? Qu'est-ce qu'ils faisaient, alors, le spécialiste du travail social et le psychologue ?
Les pratiques de soutien des psychologues de la police ont en fait évoluer avec la médiatisation des suicides. Ce qu'on constate, c'est qu'au début des années 90, leurs activités de soutien, en plus des activités de formation et de recrutement, leurs activités de soutien étaient tournées soit vers des activités préventives, donc du côté de la sensibilisation des agents de police, plutôt en école de police, donc avant le travail policier, donc avec des formations sur la gestion du stress, éventuellement sur le suicide aussi, sur la prévention du suicide. Et il y avait aussi des actions de soutien qui étaient plutôt réactives dans les services policiers, avec comme modalité des groupes de parole et des débriefings suite à des événements considérés comme potentiellement traumatisants, comme des usages d'armes, des suicides, des interventions policières particulièrement choquantes. Et donc, dans cette modalité-là d'intervention, l'idée, c'était d'intervenir sur le groupe de travail au sein des espaces policiers de façon ponctuelle. Ce qui a changé avec la médiatisation du suicide, la politisation de ce sujet et le positionnement de l'administration sur ces questions, c'est qu'il y a un service de psychologue de soutien ad hoc qui a été créé avec pour mission spécifique le soutien et un changement aussi de leur modalité d'action avec l'ajout d'une approche plus individuelle des problématiques des agents qui se traduisait par la mise en place d'une ligne d'écoute où les agents pouvaient appeler à n'importe quel moment et la mise en place d'entretiens individuels dans des lieux de consultation dédiés, donc à distance des espaces policiers. Donc ça a ouvert la voie à des nouvelles façons de penser le soutien psychologique et d'organiser.
Vous écoutez Penser les suicides, le podcast.
Marguerite Rabu, vous étudiez la question du suicide en police au travers de l'histoire d'un corps professionnel, celui du psychologue. Vous avez montré que la médiatisation des suicides des policiers s'accompagne d'une institutionnalisation de ce corps de professionnels pour traiter du mal-être en police, notamment depuis les années 90. Pour autant, vos travaux de recherche remontent plus loin, à partir des années 70. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70? Pourquoi avoir pris cette borne chronologique?
Je ne traite pas les actes suicidaires frontalement. Je n'étudie pas leur ampleur ou leur causalité, ni l'ensemble des dispositifs associés à leur prévention. Mais je peux mesurer la place que l'enjeu de la prévention du suicide prend dans l'existence des psychologues de la police, c'est-à-dire dans les activités qu'elles ont au jour le jour, dans la création de ce service et dans son déploiement très important ces dernières années et son intégration de plus en plus forte auprès des commissaires de police notamment. Et donc j'ai commencé la recherche historique à partir de 79 parce que l'intégration de ces psychologues s'est faite en 82 et que je trouvais important d'identifier quel était l'état des réflexions au sein de l'institution policière qui pouvait avoir amené à l'intégration de ces psychologues, sachant que cette intégration elle est souvent associée à l'arrivée au pouvoir de Mitterrand en 1982. Mais ce qu'on constate en regardant à partir de la fin des années 70, c'est que le souci pour une meilleure sélection, une meilleure formation des agents de police, il était présent dans les réflexions dès la fin des années 70, en tout cas. Et 79, c'est aussi l'année pour laquelle j'ai trouvé une étude statistique de l'administration policière sur ce sujet, sur les suicides policiers qui faisait suite à la médiatisation d'un cas de suicide en octobre 79 dans le Cher. Et donc l'administration policière avait décidé de se saisir de ce sujet pour faire une étude qui visait surtout à montrer qu'il n'y avait pas de sursuicidité policière. Ce qui a évolué, c'est qu'au début des années 80, leur mission, c'était essentiellement le recrutement et la formation, qu'à partir du début des années 90, il y a des missions de soutien qui arrivent. Et en 2006, il y a un nouveau corps de psychologues qui a été intégré. C'est des psychologues qui sont dédiés à la prise en charge des victimes et des auteurs. Ma thèse, elle porte surtout sur les psychologues de soutien. Et ce que j'ai pu constater, c'est que leur mission avait peu changé, en tout cas sur le papier, entre le milieu des années 90 et aujourd'hui, puisque ça reste trois missions principales. D'abord, les entretiens individuels, les débriefings après des événements potentiellement traumatisants et une partie plus de sensibilisation, de prévention auprès des agents de police. Un point qui a changé, notamment sur la question du suicide, c'est qu'encore jusqu'au début des années 2000, un des modes phares de légitimation du service, c'était la lutte contre les suicides policiers. L'évolution très importante des effectifs de service, elle est due en partie à la mise en avant par ces professionnels des chiffres des suicides. Enfin, c'est pour ça qu'il y a une position un peu ambivalente du service vis-à-vis des phénomènes suicidaires. C'est que d'une part, ce service dépend de ce phénomène pour se légitimer et pour voir ses effectifs se développer. Et d'un autre côté, finalement, c'est un corps professionnel qui n'a pas tellement intérêt à se voir évaluer au regard de l'évolution des chiffres des suicides policiers, puisque c'est des chiffres qui évoluent assez peu, en fait. C'est une activité, la prévention, qui peut être particulièrement gérée par l'administration policière et donc être dominée par des logiques gestionnaires, alors que sur la partie clinique, les psychologues ont plus de marge de manœuvre dans leur manière de mettre en place leurs activités cliniques, entretien et groupe de parole, qu'elles n'en ont pour la mise en place des actions de prévention qui sont surtout guidées par des logiques gestionnaires et des objectifs qui sont fixés par l'administration et suivis par l'administration. C'est notamment ce que montre Robert Cassel quand il parle des logiques de gestion des risques auxquelles les professionnels de santé sont de plus en plus soumis et qui courent le risque de se voir limiter leurs activités de face-à-face thérapeutique avec les patients, patientes.
Comment vous interprétez le fait que ce dispositif existe depuis longtemps et qu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation? Est-ce qu'il y a des manières possibles d'évaluer par ailleurs un tel dispositif? Est-ce que, pour être un peu brut, est-ce que c'est efficace?
Alors, pour l'instant, ce qui est évalué dans la mise en place de ce service, ou en tout cas ce dont il est fait état dans les bilans de ce service, c'est le nombre d'entretiens, le nombre de débriefings, le nombre de sessions de prévention qui ont été mises en place, le nombre d'agents formés. C'est un chiffrement des moyens déployés par le service, mais il n'y a pas de chiffre produit sur les effets de ce service, ni même sur le profil des personnes suivies. Il n'y a pas d'éléments quantitatifs sur le type d'événements sur lesquels elles interviennent ou sur le type de profil d'agents de police sur lesquels elles interviennent. Une des hypothèses qu'on peut émettre pour expliquer ça, c'est que ça répond à une forme de congruence entre les façons de faire policières et psychologues. Psychologues parce que ça répond à l'enjeu de confidentialité qui est associé à leur métier. Policiers ou en tout cas administration parce que, du point de vue de l'administration, avoir l'information qu'une situation est traitée par les psychologues de la police, ça permet d'en déléguer la responsabilité, entre guillemets. Et qu'une fonction importante de service pour les acteurs administratifs centraux, mais aussi pour les commissaires, donc les hiérarchies locales, c'est de déléguer une partie de leur responsabilité vis-à-vis des agents à des professionnels de santé. Et finalement, la question de savoir à quel point le service est efficace ou qui est-ce que le service touche, ou quel type de problématique ça vient révéler ou toucher, c'est des questions qui ne répondent pas à la fonction de ce service dans l'administration policière.
En fait, c'est une couche de professionnels qui ont un travail d'interface entre l'administration et les agents concernés par le traumatisme, par la gestion d'émotions, par une potentielle crise suicidaire. Et ça rappelle en fait tout ce travail de contrôle au sein des institutions de ce type, l'armée et la police. Mais ça nous fait penser également, ça me fait se poser la question en fait, comment ça se fait que la prise en charge de ce type de comportement se fait par ses propres collègues?
Alors c'est sûr qu'ils dépendent de la même institution. Par contre, ils n'ont pas exactement le même profil, puisque les agents de police sont en majorité des hommes, aussi avec des niveaux de formation qui ne sont pas toujours d'un bac plus 5, on va dire. Alors que les psychologues sont en majorité des femmes, formées à un niveau bac plus 5 sur des volets qui sont plus de l'ordre de la psychologie que du droit ou de techniques d'intervention sur le terrain. Donc, ça donne quand même des rapports à l'action différents. Mais reste qu'effectivement, ça veut dire que c'est un soutien qui reste interne à l'institution. Donc, c'est un soutien qui reste financé par l'employeur et avec aussi des potentielles suspicions de la part des agents de connivence entre ces psychologues et la hiérarchie ou l'administration. Et donc, des peurs que recourir à de tels professionnels puisse avoir des impacts sur la suite de la carrière, sur le port de l'arme, sur la possibilité d'intervenir sur la voie publique. Ça fait partie des critiques qui sont souvent adressées par les agents de police à ce service, d'être les parapluies de l'institution, là je les cite, ou de venir couvrir leur chef et de pouvoir provoquer des désarmements. Donc, c'est professionnel, je parle d'elle au féminin parce que c'est en majorité des femmes, ont à exercer leur métier en se situant entre la hiérarchie et ses agents. Donc, pour le dire autrement, le paradoxe, c'est aussi de devoir accompagner des agents, des patients, tout en ayant la même hiérarchie qu'eux. Alors, elles ne sont pas sous l'ordre de la hiérarchie policière locale. Par contre, elles dépendent de la même administration policière de manière générale. Donc, elles peuvent avoir les mêmes problématiques en termes de retard de salaire, problématiques d'équipement matériel. Elles peuvent avoir le même type de revendications vis-à-vis de l'administration policière, ce qui leur pose parfois des questions en termes de distance. L'idée aussi, c'est que ça ne doit jamais être obligatoire ni systématique comme prise en charge. Pour les opérations plus collectives ou des interventions suite à des événements potentiellement traumatisants, les psychologues sont mobilisés par la hiérarchie policière et ne peuvent pas être sollicités par les agents directement. Ils peuvent aussi être sollicités par d'autres acteurs de santé de la police. Une des problématiques que rencontrent les psychologues de la police, c'est parfois de se voir orienter des agents par leur hiérarchie contre leur gré. Donc il y a aussi cette problématique du fait d'être un service de soutien en interne, de devoir gérer avec des demandes hiérarchiques qui ne coïncident pas forcément avec les besoins ou les demandes des agents. Moi, ça fait moins partie de ce que je peux dire à partir de ma thèse. Par contre, ça fait l'objet de plus en plus de recherches, notamment au Canada et aux États-Unis. La question de quels sont les facteurs qui peuvent pousser les agents à consulter ou au contraire les en empêcher. Ça a aussi fait l'objet d'une enquête par une équipe de sociologues au milieu des années 2000, qui est notamment dirigée par Marc Loriol sur le volet police, avec le constat que les agents de police peuvent avoir plutôt tendance, en tout cas ceux de sécurité publique, à préférer gérer leurs problématiques psychiques au sein du groupe de travail même et avoir des réticences à s'en remettre à des intervenants externes au groupe de travail. Un déclencheur de la prise en charge psychologique ou en tout cas du recours à des soins, ça pouvait être notamment des problèmes disciplinaires. Un des événements pour lesquels les psychologues sont le plus mobilisés, c'est les usages d'armes ou tous les événements qui peuvent donner lieu à une enquête disciplinaire ou une enquête judiciaire et qui donc viennent interpeller les psychologues pour remettre les agents à une place de victime.
Est-ce que vous avez été bien reçu par les psychologues? Est-ce qu'ils ont compris le sens de votre enquête? Est-ce qu'au cours de votre enquête, vous avez ressenti des obstacles ou des résistances de la part de l'institution?
Alors, l'entrée dans l'institution avec la question des suicides, elle a posé des questions en termes de confidentialité. Après, dans la rencontre avec les psychologues, je pense que c'est le cas pour beaucoup de sociologues qui enquêtent sur des professionnels du psychisme, elle a nécessité de clarifier ma position de sociologue qui viendrait travailler sur les pratiques des psychologues avec la question de la part de ces professionnels de qu'est-ce qu'une sociologue peut avoir à dire sur des pratiques qu'elle ne connaît pas ou qui ne sont pas de sa formation. Et donc ça a nécessité pour moi de me positionner du côté plutôt organisationnel de leurs problématiques, plutôt institutionnel, en reprenant en fait une division que ces professionnels font elles-mêmes sur leurs activités entre ce qui relève de l'institutionnel et du clinique. Moi, je me suis située plutôt du côté de l'institutionnel, ce qui ensuite m'a valu d'être un peu cantonnée à cet endroit-là, donc d'avoir plutôt accès aux réunions d'équipe entre psychologues, d'avoir accès aux réunions de ces professionnels avec d'autres, donc des médecins ou de la hiérarchie policière. Je n'ai pas eu de mal à avoir des entretiens avec ces psychologues-là non plus, aussi parce que je pense que c'est une modalité d'échange qui leur est familière, même si... elles étaient toujours surprises quand je leur demandais leur parcours familial, parce que je pense que ça renvoie aussi à une certaine vision de la sociologie qui est plutôt pas du côté de la famille, en tout cas que la famille ce serait un champ réservé à la psychologie. Et donc sur l'espace des entretiens en tête-à-tête avec ces professionnels-là, j'ai pas eu de soucis. Ce à quoi j'ai pas eu accès, c'était les entretiens avec les agents de police et les débriefings, donc tous les espaces dits cliniques. À mon avis, ça s'explique par le fait que la place de psychologue dans l'institution policière, elle est déjà difficile à négocier en tant qu'observateur semi-extérieur. Et que porter en plus la présence d'un observateur vraiment extérieur, pour le coup, le double regard extérieur, aurait été difficile à amener dans une interaction qui, je pense, demande déjà beaucoup de mise en confiance de la part des psychologues auprès des agents.
Et alors, qu'est-ce que la prévention du suicide chez les policiers dit sur le suicide des policiers ?
Un des points qui a été considéré comme le plus caractéristique des suicides policiers, c'est l'usage de l'arme. Plusieurs des mesures préconisées par les études qui ont été menées sur le sujet, notamment par l'INSERM en 2010, c'était d'organiser des formes de dépôt de l'arme à la fin du service dans des casiers spéciaux ou des formes comme ça de limitation du port de l'arme qui ont été mises en place, puis limitées avec les attentats en 2015. Donc ça pourrait être le cœur de la politique de prévention du ministère de l'Intérieur, ça ne l'est pas forcément. Moi, ce que j'arrive plus à identifier comme lien, c'est ce que la prévention du suicide dit de l'institution policière, en fait. Notamment, une des modes de prévention qui est souvent préconisée dans ce monde-là, mais qui l'est aussi, je pense, pour les armées, c'est le soutien entre pairs, le modèle, en tout cas, qui est en police, qui est appelé celui des sentinelles, où il s'agit de former des agents de police à repérer des formes de mal-être ou de comportement qui pourraient être annonciateurs de velléités suicidaires. Donc de former des agents à la reconnaissance de symptômes et à l'orientation vers des professionnels de santé. Un des leviers de la politique de prévention du suicide, ça pourrait être de s'appuyer sur le groupe de travail pour atteindre l'agent en question. Ce qui est assez particulier dans le rapport entre suicide et administration policière, c'est aussi comment le sujet des suicides a été politisé, plus que pour d'autres corps de métier, qu'en tout cas, depuis la baisse de la mortalité des agents de police en service, les chiffres des atteintes aux policiers, mais aussi, on peut le dire, les chiffres de suicides ont été ressaisis comme des preuves du statut de victime des agents de police et donc comme un mode de revendication collectif qui est saisi par les associations, mais aussi par les syndicats.
Merci beaucoup, Marguerite Rabu.
Eh bien, merci à vous.
Merci.
Pensez
les suicides.